Merci Réjeanne pour cette introduction. Bon, merci aussi Michel, Fabienne et Patrick pour les points de vue que vous avez donnés sur les DA, qui sont des points de vue de participants déjà actifs et en même temps qui donnent des perspectives d'ensemble. Alors oui, les LEA sont un réseau complexe. Après un an de fonctionnement, j'ai mis sur cette première diapositive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non 8, images de LEA. Vous avez vu dans le petit dossier que le comité de pilotage des LEA a eu la bonne idée de demander à chacun de se présenter avec uniquement deux diapos, et la deuxième étant une image un peu symbolique du projet, de sa réalité. Et j'ai pris ces huit images. Vous voyez que c'est une très grande diversité. Et tout le problème est d'arriver à faire de cette diversité une richesse qui permette à chacun d'aller de l'avant, et non pas comme certains l'ont craint, peuvent encore exprimer les LEA étant comme quelque chose, être dans le réseau, une tâche en plus. Non, ça devrait être pour tous, quelque chose en moins, en tout cas une sorte de moteur pour aller de l'avant. Alors, je ne vais pas m'intéresser à des descriptions de LEA, mais plutôt à regarder le réseau dans sa dynamique. Et alors, je vais essayer d'introduire une réflexion sur les rôles, les outils pour les LEA, pour le développement des recherches en éducation et pour la diffusion même de ces ressources. Alors, c'est un exposé que je vais faire, mais je crois que c'est un exposé collectif, c'est une coproduction, parce que je me suis enrichi des apports. On a discuté avant cet exposé de son contenu avec les noms des personnes qui sont là. C'est le comité de pilotage, les deux personnes qui ont fait des masters sur le projet, et Jarre Sansévi pour les apports que je vais mentionner. Et puis nous aurons aussi une intervention à distance de Nicolas Lechaupier, qui est philosophe des sciences, et qui est actuellement au Chili, à Santiago du Chili, au congrès d'association d'histoire et de philosophie des sciences du Cône Sud, et qui est dans le comité scientifique quelqu'un qui a un apport tout à fait intéressant sur les questions de recherche participative. Et il a bien voulu intervenir pendant 5 minutes sur une vidéo préenregistrée, parce que nous méfions des aléas du direct. Bon, et puis je voudrais quand même remercier tout particulièrement les trois chevilles, comment on pourrait dire, chevilles ouvrières ou chevilles ingénieures du développement des LEA, ici, Alifé, Nicolas Favelier, Catherine Loisy et Réjeanne. Bon, enfin, quand même, Michel Dussault l'a signalé, on a créé quelque chose de nouveau au moment où l'INRP était dissous, il fallait reconstruire une bonne partie des choses. Donc il a fallu une motivation forte et une conviction qu'on tenait là quelque chose de tout à fait puissant, à la fois pour le démarrage de l'IFE et au service de la recherche en éducation et de l'éducation au sens large. Alors je vais aborder 4 points. D'abord l'actualité des LEA, et peut-être rappeler ce qui s'est passé, ce qui a été leur origine. Ensuite, une sorte d'état de l'Union. Bon, c'est pas facile de dire ce qu'est un réseau à un moment donné, les différentes trajectoires, mais j'essaierai de prendre un certain nombre d'éléments de sorte de carottage pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les profondeurs. Un ensemble de propositions soumises au débat, et puis j'insisterai aussi sur des responsabilités partagées. Parce qu'on peut pas dire que les LEA sont un bien commun, et puis qu'ils sont de la responsabilité de l'éducation, des territoires, bon. Et puis sans voir aussi qu'est-ce que cette responsabilité implique comme moyen, comme prise en charge des ressorts nécessaires de ce développement. Bon, alors, l'actualité des LEA, pour commencer. Alors, à l'origine, l'origine des LEA, c'est l'origine de l'IFE, la réflexion sur un programme scientifique auquel un certain d'entre vous ont été associés. Et il y avait cette idée forte qui était portée par le programme d'Yves Roinquin de l'éducation comme fête sociale totale. Donc l'éducation, ce n'est pas que dans l'école, c'est dans la société. Et donc on dépasse les questions proprement pédagogiques pour s'intéresser à l'éducation en associant éducation à socialisation et collaboration entre acteurs. Bon, et ça, c'est déjà une révolution épistémologique. Cette question de collaboration entre acteurs nous a fait déplacer notre cible, notre réseau de collaborateurs qui était jusqu'à présent, qui reste encore pour une bonne part, des enseignants associés, pour évoluer vers des lieux d'éducation associés, donc considérant non pas des individus, mais des collectivités dans lesquelles ils sont intégrés. Alors, cette idée de collaboration, j'aimais faire Ferdinand Buisson parce que c'est, on est à un an du centenaire du nouveau dictionnaire pédagogique, mais enfin, il faut se rappeler, je l'avais rappelé à la naissance des DA, qu'il dit quand même que enseigner, c'est collaborer. Tout enseignement est une collaboration. Et il faut relire le dictionnaire pédagogique où on montre la collaboration nécessaire dans le conseil des maîtres pour que les maîtres réalisent leur enseignement. Bon, la collaboration nécessaire à tous les niveaux pour que l'éducation soit, joue réellement son rôle et un sens. Et puis, il y a derrière, profondément, une évolution des recherches en éducation. C'est-à-dire que dans le programme scientifique de l'IFE était très, très ambitieux parce que portait en lui l'idée d'une métamorphose nécessaire des recherches en éducation aujourd'hui et d'être le pivot ou un des ressorts de cette métamorphose. C'est une révolution épistémologique de dire que travailler avec des professeurs au sens large, avec des gens qui veulent éduquer, ça peut relever d'une science fondamentale. Donc il ne s'agit pas avec l'IFE, avec les lieux d'éducation associés, d'appliquer, de tester, d'expérimenter, mais il s'agit de construire les ressorts même de ce qui doit être une recherche fondamentale en éducation. Et puis cette idée, enfin, de l'EA comme lieu de formation généralisée, ils le sont pour ceux qui sont là pour apprendre, mais ils le sont pour ceux qui enseignent, pour ceux qui vont enseigner, bon, Patrick parlait de professeurs stagiaires, par exemple, et ils le sont aussi pour les chercheurs. Donc c'est bien un EA comme une totalité complexe et très ambitieuse, c'est de cela que nous voulons parler. Alors, il faut préciser le projet. Au départ d'ELEA, on a fixé 4 conditions. Bon, quand un lieu d'éducation se tourne vers nous et dit « Tiens, pourquoi ne serions-nous pas d'ELEA ?» Alors, il y avait des conditions assez précises. D'une part, c'est l'engagement des acteurs d'un lieu à enjeu d'éducation autour d'une question identifiée comme critique. Donc, un ELEA, ce n'est pas d'abord une équipe de recherche qui a une préoccupation, ça vient d'une question portée, ressentie comme critique par les acteurs d'un lieu. C'est jamais tous les acteurs du lieu, mais des acteurs suffisamment significatifs pour qu'on voit que cette question n'est pas portée par une personne, mais par des gens qui peuvent se dire « Nous, ici, on a cette question-là ». Ensuite, une implication d'une équipe de la plateforme IFE, je dis « Ou associée à l'IFE ». Parce que l'ELEA, c'est aussi un moyen de reconstruire, de développer le réseau d'équipes de recherche associées à l'IFE. Il y a par exemple, c'est le projet de Michel Grangeat, le laboratoire des sciences d'éducation de Grenoble, qui n'était pas une équipe associée à l'IFE, qui, par le biais d'ELEA, rentre aussi dans cette plateforme. Donc, des équipes, enfin une équipe, un ELEA, des acteurs à l'intérieur. Et puis, troisième condition, un soutien actif du pilotage de l'établissement. On ne voulait pas d'une recherche qui soit à la marge d'un établissement ou d'un lieu, mais ceux qui sont en charge de l'établissement, que ce soit le directeur d'un hôpital, le directeur d'un centre éducatif, d'un centre social, un chef d'établissement, dit « Oui, ça m'intéresse, et je le mets comme enjeu pour ma politique même d'établissement. » Hop. Bon. Petit problème. Voilà, on revient. Et enfin, dernière condition, la compréhension partagée d'une construction commune dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette idée qu'on travaille ensemble, mais ce n'est pas cette année, on s'est donné 2 ans, 3 ans. Donc il y a un contrat dans le temps. Ce n'est pas un raid que fait une équipe de recherche d'un établissement. Le pilotage de l'établissement est aussi garant de cette continuité. Même si le pilote de la recherche dans l'établissement s'en va, bon, l'établissement lui-même s'engage en disant « c'est notre affaire ». Et puis, vous voyez bien qu'au-delà de ça, il y a cette complexité déjà au sein d'un ELEA, parce que il y a des acteurs dans l'EA, mais ils doivent. C'est pas une recherche en autarcie, ça doit diffuser dans tout ce lieu. Il y a l'environnement du l'EA aussi. Et puis, il y a l'équipe dans l'IFE, et puis il y a l'équipe autour de l'IFE, etc. Il y a toutes ces interactions qu'il s'agit de penser. Voilà les 4 conditions. Alors, il y a toujours une sorte d'inflation après les 4 conditions. Il y en a un peu plus. Mais ça relève d'une réflexion qui a été proposée par Gérard Sansevier. Je voudrais la rappeler parce que c'était la conférence de rentrée, la première conférence des l'EA il y a à peu près un an. Et donc, je vais reprendre ces 9 propositions parce que pour moi, c'est les propositions qui sont fondatrices des l'EA. Il y a d'abord l'idée de l'EA qui sont des collectifs qui thématisent l'ensemble des problèmes de la profession. Alors là, ça revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, cette sorte de bouleversement épistémologique. Gérard Sansevier avait introduit sa conférence en disant il faut en finir avec les dualismes d'ancien régime, disait-il, qui opposent la contemplation et l'action, la théorie et la pratique, la fin et les moyens. Et donc, à l'opposé de l'idée de recherche appliquée, il s'agit bien de faire de la recherche fondamentale dans l'ELEA, de considérer que le rapport que les professeurs, dit de façon générique, ont un rapport au savoir, je reprends ces mots, fort, puissant, complexe. Que leur rapport aux élèves est façonné par le savoir et que leur rapport aussi façonne ce savoir. Et donc il avait pris comme métaphore d'Eléa des cliniques de l'éducation, comme il y a des cliniques pour faire la science médicale, des cliniques de l'éducation sont à la fois des lieux de constitution de la science, c'est-à-dire de la compréhension de l'éducation, et des lieux de formation. Et c'est pour ça que ces recherches, elles conçoivent fondamentalement des dispositifs du faire apprendre, et pour reprendre ce que disait Michel Lussault tout à l'heure, cette relation complexe entre apprendre et faire apprendre. C'est ça qu'il y a au cœur d'Eléa. Il vise l'engagement dans la production de travaux de recherche qui sont pas seulement la production des laboratoires de recherche dont c'est bien le métier, mais qui aussi donnent comme enjeu pour tous les acteurs d'Eléa d'avoir aussi ces productions de recherche. Et il évoquait par exemple, pour continuer la métaphore médicale, les thèses professionnelles des médecins. On pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait des thèses professionnelles réalisées, construites par des enseignants dans l'Eléa. Et puis des thèses aussi, des mémoires, j'en parlais tout à l'heure, qui prennent comme objectif la compréhension de ce qui se passe dans le réseau d'Eléa. Bon, la diffusion des résultats en particulier en formation. Bon, j'ai dit des lieux de formation généralisés, j'avais dit tout à l'heure, avec sans doute des liens forts avec les écoles supérieures du professorat et d'éducation. Ils constituent des incubateurs de projets communs. Alors, EA, je veux dire équipe d'accueil, parce qu'en éducation, il y a surtout des équipes d'accueil, mais plus généralement des équipes de recherche, des UMR, et les LEA doivent être ces incubateurs de projets de recherche qui permettent aussi de nouvelles formes de dialogue entre les équipes de recherche à l'intérieur de l'IFE, dans la plateforme IFE, et puis dans les territoires de la recherche en éducation. Ils constituent des interfaces avec les institutions, des interfaces à construire. Elles ont commencé à être construites avec les relations que le DRDIE nous a permis d'avoir avec les CARDI, et ceux-ci ont joué un rôle moteur, par exemple à Grenoble, à Lyon, dans d'autres régions, à Rennes, mais certainement encore à approfondir. Les LEA ont vocation à se constituer en réseau. Il y avait l'idée d'une revue spécifique. On n'est pas encore dans l'idée d'une revue spécifique, mais il y a déjà dans le bulletin de l'IFE, la recherche IFE, à chaque fois une page sur les LEA. Et enfin, fondamentalement, parce qu'il ne faut pas perdre de vue cet objectif, ils permettent de penser le renouvellement de la forme scolaire. Parce qu'au moment où on parle de refondation de l'école, ce renouvellement de la forme scolaire est quelque chose qui est, tout à fait, qui prend des formes critiques. Bon, parler de forme scolaire, c'est parler d'une organisation de l'école telle qu'elle s'est imposée en Occident depuis le XVIe siècle, avec des générations d'enfants de même âge qui avancent au même rythme, qui apprennent dans des lieux spécifiques des savoirs partagés en disciplines plus ou moins étanches. On voit bien qu'on est à l'orée d'un bouleversement de cette forme scolaire, avec des formes qui ne sont pas peut-être celles que l'on souhaite, en tout cas que le numérique et les rapports marchands peuvent configurer d'une certaine façon. Il y a la responsabilité de la recherche en éducation de penser ce renouvellement d'une forme scolaire. Et les LEA, dans leur diversité, parce que les LEA concernent à la fois les apprentissages scolaires, mais aussi ce qui se passe hors de l'école, les apprentissages formels et informel, et ces deux considérations simultanées peuvent nous informer réciproquement, comprendre ce qui se passe dans l'informel, permet de comprendre aussi ce qui se passe dans le formel, etc. Donc les LEA sont le lieu pour penser ces choses-là. Et alors, nous pensons que ça constitue cette réflexion, le dispositif qui est là, c'est une contribution essentielle à la réflexion sur la refondation de l'école. Alors j'ai pris quelques éléments, ils ne sont pas nombreux. Des éléments dans le rapport des coordonnateurs de la concertation nationale pour la refondation de l'école de la République, il n'y a pas beaucoup d'évocation de la recherche. J'ai pris uniquement les 3 ou 4 moments où on parle de recherche. Mais vous voyez, quand on parle de recherche, on parle de nouvelles formes de solidarité horizontale, interpersonnelle, fondée sur l'échange, l'entraide, la coopération, le respect de l'autre. Bon, c'est exactement ça. Ça décrit bien ce qui doit se passer dans l'EA. Renforcer des liens entre la formation et la recherche. Le lien entre recherche et production de ressources, et enfin, mettre en place des structures d'essaimage de l'innovation pour assurer leur diffusion, établir des liens avec les équipes de recherche. Bon, on voit bien qu'on est là avec des mots qui sont les mots des auteurs de ce rapport, mais au-delà des différences de langage, on voit bien que les problématiques sont les mêmes. Les LEA doivent être aujourd'hui, doivent être compris par le ministère comme une chance, je dirais, historique d'établir de nouveaux liens entre la recherche, la formation, avec cette idée que la recherche construit ces formes de cliniques que représentent aujourd'hui les LEA. Bon, voilà, rapidement dit, le projet des LEA, il y a un an. Alors, l'état de l'Union. Alors, c'est compliqué de parler, de faire un bilan très approfondi. Je vais faire uniquement quelques sortes de focus à partir de différents points de vue. D'abord, on peut parler de réseau qui s'élargit. Alors, en voulant, en mettant cette carte, je pensais, puisqu'on parle beaucoup d'Astérix, vous savez, à la carte avec une loupe et le petit village gaulois qui résiste. Mais les LEA, c'est l'exact contraire. Ce n'est pas des lieux qui résistent, c'est des lieux qui devraient, au contraire, irradier. Alors, ce développement, on peut le voir à travers ce développement qui est assez spectaculaire du nombre des lieux. Il y avait 12 en 2011-2012, 27 en 2012-2013. Alors oui, c'est Réjeanne que cette idée lumineuse, c'est que m'a dit Nicolas, mais c'est comme l'Europe. Oui, parce qu'on est passé de 12 à 27 en Europe. C'est un hasard total. Mais penser ça, ça permet aussi de penser, quand on voit les difficultés de la construction européenne, c'est quoi cette difficulté? C'est des situations différentes, des avancées différentes, économiques, politiques, des points de vue sur la démocratie différents. Bon, quand on constitue un réseau des LEA, et dans les différents ateliers qu'on a pu mener l'année dernière, dans les échanges qu'on a entre nous, on n'est pas très loin aussi de ces questions, de cette difficulté de faire de l'un avec du multiple, et du multiple avec de l'un. Et puis, il y a des choses qui sont aussi très fortes, parce qu'il n'y a pas seulement un cercle, il y a un deuxième cercle, c'est-à-dire des LEA qui ont formulé un projet l'année dernière, et dont le comité de pilotage, le conseil scientifique, a reconnu que le projet n'était pas mûr, en regard des conditions qui ont été données tout à l'heure. Mais le LEA, ce n'est pas un lieu d'où on sort, où on reste à l'extérieur, c'est un lieu aussi qui doit penser ses propres cercles d'extension. Donc il y a un deuxième cercle de LEA, avec 10 nouveaux LEA qui sont là, dans une situation de maturation en cédant d'interaction permanente avec les LEA du premier cercle. Et puis il y a 5 nouvelles candidatures annoncées. Ces questions de germination de LEA, ça va en lien avec des interactions très fructueuses, il nous semble, avec les UFM, les CARDI, et j'ajouterai avec des équipes de recherche. Il y a aussi cette extension internationale qui est tout à fait fructueuse. Certains LEA sont en relation déjà, l'école Saint-Charles à Marseille avec l'école des Petits de Genève, qui est l'école historique dans laquelle Jean Piaget a développé ses travaux. On a des relations avec le centre Enfance, Art et Langage de Lyon, avec le centre de Wallonie pour l'éducation et l'enfance. Bon, Centre dramatique pour l'enfance et la jeunesse. Et puis, il y a des projets européens. Il y a le projet qui est porté par Grenoble et aussi par l'équipe, le LSE à Grenoble et l'équipe ICAR à Lyon, qui est un projet d'évaluation d'efficacité des démarches d'investigation dans les classes. Et c'est un projet qui est largement soutenu par l'institution scolaire. C'est un projet européen. Il me semble aussi que le projet qu'on est en train de travailler, dans un projet Comenius, qui veut travailler les preuves d'efficacité de la recherche à partir des communautés professionnelles, eh bien, ce projet-là, qui est un projet qui va se développer dans 7 pays, nous semble être exactement le projet d'essaimage des LEA, ou à travers lequel les LEA vont s'enrichir d'expériences semblables au niveau de l'Europe. Donc, de ce point de vue, pour moi, le bilan est positif. Regardez aussi ce qui se passe et regardez les conventions signées, puisqu'on s'est fixé comme objectif l'année dernière, d'aller assez loin dans la formalisation pour qu'il y ait une convention signée avec l'établissement, le rectorat qui l'abrite, ou le directeur départemental des services. Et puis aussi viser plus large, parce qu'au-delà de ces lieux, il y a aussi les territoires, les collectivités locales, et c'est le cas pour le réseau d'écoles résidence d'articles, des formations du chercheur, résidence d'artistes, que constitue le centre EAL à Lyon dont je viens de parler. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder à travers cette diversité de lieux, la diversité des thématiques de recherche de l'IFE. Si vous prenez tous les projets, les perspectives prioritaires de l'IFE, elles ont bien trouvé à s'incarner dans les LEA. Et enfin, a été mis sur place un comité scientifique qui représente une variété de champs scientifiques et d'institutions concernées. et ça aussi, ça me semble très important, que ce soit des considérations d'ordre sociologique, psychologique, historique, didactique, enfin, épistémologique, philosophique. On a dans le comité scientifique d'Eléa quelque chose qui permet vraiment, qui a commencé à être opérationnel, mais qui permet de penser sur le fond et dans la durée ce que le dispositif porte et ses ressources fortes, mais aussi ses ressources manquantes. Donc voilà une première vision sur le réseau, je dirais une vision assez haute au sens assez abstraite. On regarde ce qui se développe et puis un certain nombre de concrétisations, parce que ça, ce n'est pas de l'abstrait. Quand on réalise des conventions, quand on réalise des partenariats avec d'autres au niveau international, c'est certainement des indices d'aspect fructueux du dispositif. Alors ensuite, on peut regarder comme vision du dispositif là où il se réunit. Et il y a eu deux rencontres, le 23 novembre 2011 et le 30 mai 2012. Ça a aussi permis de voir ce qui était discuté, ce qui en est sorti et ce qui est apparu comme difficulté. Alors en tout cas, c'était des rencontres joyeuses. Là, c'est le Léa Sachard dont on voit la photo. Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer les sourires des participants. Le choix a été fait à chaque fois d'organiser ces rencontres autour d'un triplé. C'est-à-dire il y a l'équipe de recherche, il y a les acteurs de l'établissement, il y a aussi le pilotage de l'établissement. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un séminaire de travail où sont directement concernés les correspondants. Mais à chaque fois qu'il y a eu des rencontres générales d'Eléa, ces trois aspects du lieu étaient pris en compte. Alors, qu'est-ce que ça a apporté? Alors, très certainement, une connaissance mutuelle, une formalisation du cadre, l'émergence de rôles structurants dont on parlera aujourd'hui, j'en parlerai davantage tout à l'heure, c'est-à-dire un correspondant Léa, c'est-à-dire celui qui, sur le lieu, a en charge eh bien, la continuité du projet, le suivi des interactions essentielles, et le correspondant IFE, c'est celui qui, dans l'équipe de recherche, porte en lui le projet du Léa. Et puis, il y a eu formalisation d'outils nécessaires à la fois pour la mémoire du dispositif et la communication. Et ça a été essentiellement des carnets de bord, c'est-à-dire des carnets de bord déjà structurés avec un certain nombre de questions posées sur ce que le dispositif produisait, les difficultés, etc., qu'ensuite les correspondants entre eux avaient pour charge de remplir. Mais ces rencontres, en particulier la dernière, ont déjà permis de faire apparaître un certain nombre de difficultés. D'abord, la complexité du dispositif et la surcharge de travail que cela pouvait représenter si ce travail était mal organisé. Et puis, l'idée d'une reconnaissance du travail réalisé, cette reconnaissance étant essentielle, notamment dans le premier degré. Alors, c'est apparu cette distorsion parce qu'on a vu des moyens l'année dernière de la part du ministère pour reconnaître le travail sous la forme de 30 heures annuelles, disons à peu près une heure par semaine rétribuée pour ceux qui jouent le rôle de pivot dans l'établissement. Et nous n'avions pas eu ces moyens pour le premier degré, c'est en train de changer. Donc c'est apparu comme quelque chose, pas d'injuste, mais la nécessité fortement ressentie que pour ce rôle essentiel, pour qu'il soit reconnu par le pilotage d'établissement, par l'équipe, etc., il fallait aussi que la charge de travail que cela représentait soit aussi reconnue. Et puis ensuite, ce qui est apparu fortement dans la dernière rencontre, c'est la nécessité de mieux définir le rôle avec l'idée de charte. Être correspondant, ça veut dire quoi ? Et pour éviter des chartes qui soient un empilement de choses à faire, des chartes structurées, on essaie de distinguer ce qui est essentiel dans le rôle des correspondants. C'est ce que j'essaierai de proposer tout à l'heure. Et puis, penser des outils qui facilitent la tâche et ne l'alourdissent pas. Et je pense qu'assez majoritairement, les carnets de bord sont apparus comme quelque chose de très contraignant, corsettant, et puis apparaissant davantage comme un travail fait du Léa vers le réseau, et puis sans qu'on voit nécessairement le retour du réseau vers le Léa. Donc c'est ce que je retiens des deux rencontres de l'année dernière. Ensuite, voir ce qui se passe dans un réseau, c'est regarder un peu l'intérieur. Donc j'ai demandé à Réjeanne de proposer une diversité de Léa pour qu'on essaie de voir, pour ceux qui ne connaîtraient pas les Léa, qu'est-ce qu'on y fait finalement et quelles sont les questions posées. Alors elle a proposé 4 Léa. Alors ils ne sont pas emblématiques des travaux menés, et c'est pas, je ne veux pas vous dire que c'est là vraiment qu'est fait que sont les travaux les plus avancés, mais plutôt représentatifs d'une diversité. Il y a d'abord une école, l'école de Rennes, où il s'agit de regarder les situations de communication médiée par l'éthique, essentiellement des dispositifs de visioconférence pour apprendre l'anglais avec des jumelages avec des classes anglaises. Ensuite, le collège Ampère à Lyon, une autre équipe de recherche, ICAR, où il s'agit de repenser, d'appuyer le travail des enseignants pour enseigner de façon vivante l'algèbre. Il y a un Léa nouveau dont on a parlé à Grenoble, Evacodis, ce qui veut dire
évaluation par compétence dans les démarches d'investigation au collège.
Ok, alors là on a deux collèges, quatre écoles, j'en reparlerai, un laboratoire nouveau, l'IUFM, le rectorat. Et enfin, un autre Léa, je l'aurais mis parce que là, Réjeanne a eu raison de le proposer, parce qu'elle y représente quelque chose de tout à fait différent, un CHU à La Réunion, lié au groupe de travail sur éducation et santé de l'IFE, et puis soutenu par une équipe de recherche de La Réunion, où il s'agit de regarder l'éducation thérapeutique du patient, dans certains services plus particulièrement concernés. Donc ça vous donne une certaine diversité. Puis j'ai choisi, alors comment représenter, comment dire ce qui se passe dans un Léa. Alors j'ai choisi de prendre le carnet de bord et de prendre un extrait du carnet de bord pour montrer quelles sont les questions, donner une sorte d'échantillon. Et ce qui me paraît très intéressant quand on voit ce carnet de bord, c'est la logique d'extension. Il y a d'abord une école qui est impliquée, puis une autre école, l'école Jean Moulin, qui est voisine. Et puis il y a une discussion, c'est comment on va faire pour étendre ce qui a été fait dans une école. On commençait par impliquer simplement une école, une classe de l'école, contact avec l'IUN des deux circonscriptions. Bon, et puis on regarde aussi quels sont les points critiques. Et les points critiques, c'est comment les enseignants du premier degré qui sont impliqués, eh bien, voient que c'est, ils ont du travail en plus, mais que c'est pris en compte, ce que je disais tout à l'heure. Bon, ça me paraît intéressant comme point de vue sur ce qui s'y passe. Et puis l'extension, on pourrait dire naturelle. Parce que quand il se passe quelque chose d'intéressant, les gens regardent autour, ça diffuse. On pourrait même dire que c'est le test qu'il se passe quelque chose d'intéressant, que ça diffuse naturellement. Bien, l'autre projet, le collège Ampère. Alors là, je n'ai pas pu avoir accès au carnet de bord. Peut-être que l'équipe souhaite, parce que je crois que le choix a été laissé, il y a des carnets de bord qui ont vocation à traiter les problèmes des acteurs du dispositif entre eux, et qui n'a pas vocation à être regardé à gauche, à droite. Donc je n'ai pas eu accès au carnet de bord, mais j'ai regardé la page de présentation du projet, qui en dit assez pour voir aussi la dynamique. Le groupe Sésame, c'est un projet qui avant concevait des ressources en ligne pour renouveler l'enseignement de l'algèbre, et qui a choisi l'opportunité du dispositif Léa pour ne pas diffuser ces ressources simplement aux professeurs qui en ont besoin, mais pour regarder concrètement dans un lieu ce que cette expérience de diffusion des ressources changeait dans les classes en regardant l'interaction qu'il y avait dans le lieu et en visant une utilisation de ces ressources par l'ensemble des professeurs de ce collège. Bon, on voit aussi comment la rentrée dans un Léa change un peu l'orientation des recherches antérieurement menées à l'IFE. Alors, ce qui se passe dans Evacodis, eh bien, j'ai demandé simplement à Réjeanne, qui a dit pourquoi elle proposait ce Léa comme illustration de la diversité du réseau. Alors, c'est un nouveau Léa. Il illustre l'implication des CARDI, la construction des Léa. En effet, il y a eu des réunions à Grenoble où le projet a été discuté avec l'équipe de recherche, avec l'IFE, avec les CARDI, avec l'UFM. Bon, l'aspect plateforme de l'IFE aussi, qui est intéressant, ce que j'ai dit tout à l'heure, on récupère... On étend le réseau des laboratoires de la plateforme IFE à partir de ce genre de choses. Bon, le lien avec l'UFM aussi, l'implication à l'international, et puis il y a aussi l'effet tout de suite, alors j'appelais ça pour moi cette stratégie des grumeaux qui était, j'avais trouvé cette expression intéressante parce qu'elle était utilisée, je crois, en sociologie quand il s'agissait de traiter de façon intelligente l'afflux d'immigrés. Et ce mot avait été utilisé pour l'arrivée des Polonais en France, où les pouvoirs publics dans le Nord disent « Bon, il ne faut pas les regrouper complètement, mais on ne peut pas les séparer et les rendre complètement isolés dans un univers qu'ils ne connaissent pas. » Et donc la stratégie des grumeaux, c'était faire des regroupements partiels pour qu'il y ait à la fois une solidarité effective et une ouverture vers l'extérieur. Donc je pensais à ça aussi pour et on en reparlera tout à l'heure, pour le réseau des Léa, 25 aujourd'hui, probablement 50 assez rapidement, arriver à penser aussi des solidarités à l'intérieur de ces Léa autour de problématiques proches. Et tout de suite, l'arrivée de ce nouveau Léa, Evacodis, a suscité des interactions avec un Léa en Côte d'Or qui traite aussi de l'évaluation, enfin de la mise en place des démarches d'investigation, de la mise en place contrôlée, intelligente, et donc de voir ce que cela implique pour les professeurs et les élèves. Et puis aussi un autre Léa à Vénissieux. Donc, je trouve intéressant, quand on regarde un Léa aussi, de voir comment, à l'intérieur du réseau, les choses se diffusent. Bon, alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la Réunion qui a pu venir aujourd'hui. Ah, tu es là. Bon. Alors, bon, j'avais comme accès, simplement comme ressource, des échanges de mails que tu avais eus. Donc, je donne aussi cet échange de mails pour montrer comment ça se passe, comment aussi... bon, on voit des relations qui se créent sur le milieu propre de travail, avec l'implication des cadres intermédiaires. Et ce qui est mis en exergue et qui va nourrir le projet du Léa, c'est l'aspect de l'esprit collaboratif qui va impliquer les chercheurs et les acteurs du terrain, de partir des recherches qui sont en cours, mais aussi de saisir l'opportunité du Léa pour prendre en charge aussi ce qui va apparaître comme nécessaire de traiter dans la dynamique même du projet. Donc voilà, si vous voulez, quatre petits forages dans des Léas différents. Je prends à chaque fois une petite information pour aider à comprendre, pour comprendre moi-même les dynamiques en jeu. Et puis ensuite, pour traiter vraiment l'information, il faut regarder l'ensemble des carnets de bord, rencontrer les gens. Et pour ça, ce qui est intéressant, ce sont des nécessaires sur les travaux de recherche. Alors, on bénéficie pour le moment de deux travaux de recherche, deux masters. Et il faudrait certainement, je me tourne vers le DRDIE, il faudrait certainement qu'il y ait des thèses. Oui, Fabienne Federini, je ne la vois pas. Ah. On avait parlé un moment avec le DRDIE de contrat-cifre, ou de la possibilité pour les rectorats de Nice de financer des travaux de recherche, qui est des contrats doctoraux. Bon, je trouverais très utile que sur les Léa, on puisse avoir plusieurs thèses qui travaillent avec des points d'entrée différents pour tirer les informations les plus profondes. Mais déjà, sur les masters, je trouve qu'on a deux informations intéressantes. Des informations. Il y a le premier master recherche de Lara, qui est ici, Lara Laflotte, en psychologie sociale. Alors, elle regarde d'abord le questionnement porté par les Léa, et elle interroge la continuité ou la rupture avec les projets antérieurs de Léa, qui en fait prolonge des recherches antérieures de l'IFE. Alors, j'ai montré tout à l'heure des éléments d'évolution. Mais on peut dire que quand on regarde en détail, bon, Léa pourra peut-être confirmer, pour plusieurs projets, Léa sont une sorte de continuation douce de ce qui existait avant. Et il n'y a pas encore vraiment la prise en compte de ce bouleversement, cette révolution épistémologique que je disais tout à l'heure, des changements même de la recherche qui ne considère pas les Léa comme lieu d'application ou lieu d'expérimentation, mais comme lieu où doit se produire la science. Donc là, il y a des éléments de continuité et en même temps de première rupture. Il y a des problèmes clairement identifiés. C'est le carnet de bord trop lourd, qui n'a pas cette flexibilité nécessaire pour qu'il puisse s'adapter à la diversité des contextes locaux. Et puis, il y a des préconisations qui sont à prendre en compte, certainement. La nécessité de repenser les outils. L'idée d'un journal de bord, c'est-à-dire un carnet de bord, c'est quelque chose de corseté. On répond à des questions. Journal de bord, c'est quelque chose d'ouvert où on va mettre chaque jour... ou chaque semaine, ce qui apparaît comme élément important pour le réseau ou pour l'établissement lui-même. L'apport du numérique aussi, parce que c'est assez frappant de voir que dans beaucoup de Léa, les outils comme les blogs ou les applications comme Etherpad ou des choses qui permettent, qui sont faites justement pour travailler facilement à plusieurs, ces choses sont relativement peu utilisées. Donc c'est à penser. Repenser le réseau aussi et des rôles. Il est clair que ceux qui sont dans un lieu d'éducation n'ont pas vocation à organiser la diffusion, contacter les autres, etc. Et donc, qu'il y ait des animateurs du réseau, rôle que le comité de pilotage ne peut pas forcément jouer, c'est certainement nécessaire. La question de la formation des acteurs, c'est là-dedans que s'inscrit le séminaire. La nécessité de repenser les responsabilités institutionnelles, la formation des acteurs, le temps et les moyens matériels et humains, on pourrait dire, à tous les niveaux du dispositif. Bon, le deuxième master a été fait par Delphine Ordaz, qui est aussi là-bas, master ADMIR, qui est un master qui est porté par l'ENS et l'IFE. ADMIR, c'est administration de la recherche ou des institutions de recherche ? Des institutions de recherche et diffusion des connaissances. C'est-à-dire que ce master est parfait pour étudier ce qui se passe dans le réseau des Léa. Alors, ce qui ressort de ce mémoire, bon, alors Lara et Delphine, vous rectifierez parce que c'est évidemment une lecture. Peut-on parler d'un nouveau rôle pour le pilote ou l'équipe de pilotage d'un Léa ? C'est-à-dire, est-ce que pour les chefs d'établissement qui avaient un jour des professeurs associés, tout d'un coup, découvrent ou sont informés que maintenant, ça va être un Léa, est-ce que ça a changé vraiment quelque chose pour eux dans leur pratique de chef d'établissement ? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Je dirais que là encore, il me semble qu'on est plus dans la continuité que dans la rupture. Ensuite, il semble, et là, tous les entretiens que tu as eus montrent qu'il y a en tout cas un intérêt fort des chefs d'établissement pour le projet de Léa. Ça n'a pas encore changé beaucoup de choses dans leur pratique, mais en tout cas, il y a un intérêt fort et un soutien affirmé aux acteurs impliqués dans ce projet. Et puis, ce qui semble rester à approfondir, c'est les modalités de travail conjoint. Bon, il y a un Léa, il y a un pilotage d'établissement. Comment ça se passe sur la durée ? Des modalités de diffusion des ressources de la recherche dans l'ensemble du lieu. Bon, il semble encore que, si on regarde par exemple des recherches qui se passent en maths, dans trois classes, on pourrait se dire, bon, des recherches pour rendre l'enseignement plus actif. Comment ça apparaît dans les conseils de classe, par exemple ? Comment ça apparaît dans les autres disciplines scientifiques ? Comment ça apparaît pour tous les professeurs de maths de l'établissement ? Bon, toutes ces questions de diffusion naturelle et de tous les biais que cette diffusion peut prendre, je pense qu'on peut dire qu'elles ne sont pas encore vraiment envisagées dans les établissements qu'on a regardés. Enfin, les modalités d'articulation entre le projet de Léa et le projet global de l'établissement et des contrats d'objectifs dans des établissements, en tout cas on a parlé dans l'Académie de Grenoble, bon, comment ça se passe ? Forcément, il y a des articulations à penser. Ce n'est pas la même chose parce qu'un chef d'établissement, lui, il a ses contraintes propres et la recherche peut être au service des contraintes immédiates du chef d'établissement. Mais on voit bien qu'il y a une articulation à penser. Bon, alors finalement, à partir de ce bilan rapide, si on regarde les 9 propositions de Gérard Sansévi, qui était, on peut dire, une sorte d'acte fondateur d'Eléa, bon, j'ai mis en bleu ce qui me semble devoir être travaillé plus particulièrement. Bon, tout est à travailler, hein, mais ce qui me semble être à travailler plus particulièrement pour le réseau, c'est thématiser ensemble les problèmes de la profession, c'est-à-dire toutes les ruptures épistémologiques qui font que l'Eléa, c'est autre chose qu'un champ d'expérimentation ou qu'un projet sur l'année. Donc c'est à penser sur le fond, dans la façon dont une équipe de recherche va ressourcer ces problématiques et non pas simplement tester telle ou telle hypothèse. Penser la diffusion des résultats, alors en particulier en formation, on peut prendre tous les Léas et regarder comment les diffusions sont faites, imaginer toutes les façons possibles de diffuser, on voit qu'il y a encore beaucoup de projets à faire, constituer des incubateurs de projets communs pour les équipes de recherche de la plateforme IFE. Je pense qu'aujourd'hui encore, les Léas n'apparaissent pas comme un lieu où vraiment ça vaut le coup entre deux UMR de l'IFE, entre des sociologues, des historiens et des didacticiens, de dire « bon, voilà, ça c'est très intéressant, on va mettre à l'épreuve, on va discuter sur le fond ce que c'est apprendre, ce que c'est à partir d'expérience Eléa ». Donc ça, c'est à construire. Les interfaces avec les institutions, je pense, sont à construire. Il y a eu des intentions qui ont été données, des premiers pas. Je pense que c'est à travailler. Puis cette revue spécifique, il me semble que ça serait une bonne façon d'aller un peu plus loin que de concevoir une revue spécifique. Il y a déjà beaucoup de revues. On peut faire une revue en plus pour une revue en plus. Comment ça peut s'articuler avec les moyens de diffusion aujourd'hui de l'IFE ? Alors, bon, voilà. Et je voudrais mettre quelques propositions, les soumettre au débat. Alors j'ai, je crois, 3 ou 4 propositions. D'abord, l'idée de recentrer sur la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est ce dont parlait Gérard Sansévi. En privilégiant les flèches que j'ai mises là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire penser chaque lieu d'éducation associé davantage dans sa singularité et sa dynamique. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément des outils uniques. Un lieu d'éducation associé, c'est peut-être penser davantage à associer dans ce qui se passe dans le lieu plutôt qu'associer dans le sens où on associe différents lieux. C'est quelle association on va penser dans le lieu. Alors, on s'est posé la question pour traduire Léa dans une autre langue, et en particulier dans le cadre d'un projet européen où Michel Grandjean m'avait invité pour la séance de clôture, le colloque de clôture du projet Estime, où la question du travail collectif était posée. Donc, on s'est demandé comment traduire Léa, parce que si on traduit lieu d'éducation associé, ça ne veut pas dire grand-chose. À l'IFE, ça ne veut rien dire. Et donc, on est obligé de penser le fond même. Alors, en discussion avec les anglophones, avec Michael Baker, avec Chris Lund, enfin, et puis les gens s'intéressant au projet, on est arrivé à un truc bon, qui est beaucoup moins sympa, enfin beaucoup moins, qui se dit moins facilement, mais qui est par contre beaucoup plus explicite. C'est donc cette idée d'associer cette place, ce lieu, à une logique de design experiment. Et ces stratégies de design experiment sont bien connues dans le monde anglo-saxon. On pourrait traduire ingénierie didactique, mais ça, ce n'est pas assez précis. Référez-vous aux travaux de Paul Cobb, par exemple, où, pour lui, ces stratégies fondent la recherche en éducation, en ce sens qu'elles sont à la fois des recherches, des démarches d'ingénieurs visant à instrumenter l'apprentissage et l'enseignement, mais en même temps, elles ont une portée d'études systématiques des apprentissages et des moyens d'enseignement. Donc c'est les deux. Et donc, en traduisant le sigle, on en vient à re-questionner, à peut-être repréciser. Et je me disais, bon, c'est juste pour le dire, que peut-être une bonne traduction du Léa, ça serait lieu d'éducation apprenant, parce que ça met l'accent sur le fait que c'est un lieu où tout le monde va apprendre. Et l'enjeu, c'est en effet d'apprendre, y compris les chercheurs. Bon, il ne faut pas changer les étiquettes, c'est toujours terrible, donc, mais peut-être avoir en tête davantage dans le pilotage des Léas, de son Léa, que finalement, ce qui est en jeu essentiel, c'est là, c'est le lieu. Et ça sera d'autant plus, on aura une coordination d'autant plus efficace qu'on aura approfondi, plus on c'est comme quand on fait un pont, hein, plus les piliers sont profonds, plus le pont tient. Bon, alors ensuite, ça a une conséquence directe sur l'approfondissement du rôle des correspondants. Alors, il y a le correspondant Léa, qui est dans Léa, le correspondant, y fait. Alors, il me semblait que l'idée de courtier de connaissances était une bonne idée, et je vais donner la parole à Nicolas Le Chaupier, sa contribution de 5 minutes, où il va expliquer ce que c'est cette idée de courtier de connaissances qu'il a prise des communautés de recherche en éducation canadiennes, qui l'ont reprise des communautés anglo-saxonnes. Ça dure exactement 5 minutes, il a tenu la contrainte. Voilà,
je donne. Bonjour. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous, mais je voudrais vous parler d'une notion, celle des knowledge brokers ou des passeurs de savoir. Ces personnes dont le travail consiste à faire le lien entre les acteurs et les chercheurs, à faire la médiation entre les résultats de la recherche et ses utilisateurs finaux. C'est une notion qui me semble intéressante que j'ai découvert en étant au Canada et en étudiant des recherches en santé environnement. Donc on est dans le champ de la santé publique, pas celui de l'éducation, mais je crois que ça peut avoir un lien et être assez intéressant dans le cadre d'une discussion sur les Léas. La problématique de départ, c'était celle de savoir comment les chercheurs pouvaient restituer leurs données, plutôt leurs résultats, aux personnes qui avaient participé aux recherches et qui étaient concernées par les problèmes que ces recherches prenaient pour objet. Et en fait, on s'est aperçu que la restitution, ce n'était pas du tout quelque chose de facile et d'aisé, mais que ça soulevait tout un tas de questions, notamment des questions de traduction, c'est-à-dire comment traduire des résultats de recherche en les popularisant, ce qui est une question assez traditionnelle, mais des questions peut-être un peu plus fondamentales aussi, comme celle de savoir qui est le mieux placé pour évaluer la portée pratique de résultats. Est-ce que le chercheur est en bonne position pour, dans une restitution, donner la portée, estimer la portée pratique d'un résultat? Et plus fondamentalement encore, qu'est-ce que veut dire s'approprier un savoir, s'approprier un résultat? Toutes ces questions-là ont fait l'objet de controverses qui ont débouché sur cette figure du knowledge broker, du courtier de connaissances, comme les Canadiens, les Québécois l'ont traduit. Et à cette figure, il consacre aujourd'hui des moyens, c'est-à-dire que des personnes sont embauchées pour remplir cette fonction-là, de passeur de savoir, de responsable de l'échange de connaissances autour de la recherche. Je crois que c'est assez intéressant que cette fonction-là soit institutionnalisée, soit recherchée comme quelque chose de professionnel. Parce que la figure du passeur de connaissances, elle répond à une problématique qui est assez fondamentale en santé publique. Il y a un consensus pour dire qu'on manque de recherche sur la transposition des résultats. On sait produire des recherches pour savoir si une expérimentation marche, si un certain type d'action est efficace dans la situation où elle a été testée, mais on manque souvent cruellement de données pour savoir comment un résultat peut passer dans un autre contexte et fonctionner ou pas, et quels sont les facteurs qui font que ça fonctionne. Et le courtier de connaissances, il s'adresse justement à cette problématique-là de la transposition. Et je crois que c'est aussi quelque chose un problème qui se pose dans le champ de l'éducation. Alors concrètement, un courtier de connaissances, c'est quelqu'un, par exemple, qui a participé à la recherche, comme un étudiant ou un post-doctorant, et qui, à la suite de cette recherche, consacre du temps à passer du temps avec la communauté qui va utiliser les résultats et qui se charge de réfléchir avec cette communauté et qui aide à passer les résultats dans la pratique. Ça peut être aussi une personne de la communauté, un des acteurs, qui est formé pour connaître et pouvoir faciliter l'accès à ces connaissances qui ont été produites par la recherche. Ça peut être aussi un acteur collectif, ça peut être une assemblée hétérogène qui réunirait par exemple des chercheurs, des décideurs, des utilisateurs, des usagers, et toute personne qui est impliquée par une situation, et des assemblées qui ont justement pour but d'échanger et de consacrer du temps à ce partage de connaissances, à cet échange de connaissances. Pour finir, l'idée de Knowledge Broker, je crois qu'elle est intéressante aussi parce qu'elle montre bien que l'échange entre la recherche et la pratique se fait toujours dans les deux sens, et donc on est vraiment dans quelque chose qui est au-delà du modèle diffusionniste pour être dans un modèle co-constructionniste. Voilà, sur ces mots un petit peu compliqués, je vous laisse. Merci beaucoup.
Voilà, ça a marché. Bon, merci Nicolas à distance. Bon, ça me paraît être une figure intéressante, cette idée de passeur de connaissances. En tout cas, que la personne qui est associée dans un établissement, dans un lieu, et qui est appelée correspondant Léa, eh bien, sa responsabilité essentielle soit de penser, ce qui nécessite un travail scientifique, de penser comment ce qui est en train d'être développé, la science en marche, on pourrait dire, peut être travaillé au bénéfice de l'ensemble du lieu. Donc, s'il y avait à faire une charte, enfin, vous en discuterez cet après-midi, il me semble que c'est en haut, le correspondant Léa, c'est ça, autour de ça que doit être pensée sa fonction. Ensuite, il y a le correspondant IFE, celui qui est dans une équipe de recherche. Bon, il y a plein de choses à faire. Tout chercheur a plein de choses à faire. Il faudrait que s'il y avait là aussi quelque chose à mettre en haut d'une charte pour le chercheur associé, c'est celui qui est comptable de la coproduction de la recherche et de la coproduction de ses ressources. Je pourrais dire, pour trouver un mot, ça serait le symétriseur, celui qui doit toujours avoir en tête, j'ai ma position de chercheur, je travaille dans le cadre d'un lieu. En quoi cette symétrie qui se construit, en quoi elle se construit vraiment? Puis après, il y a plein de choses à faire. Mais c'est de ça qu'il devrait être comptable. Et puis, il y a une pluralité de partenaires et certainement une pluralité de correspondants à coordonner. Bon, mais ça, c'est à penser. S'il y a des collectivités locales, enfin, bon, tout ça, c'est à penser. Penser peut-être des binômes ou des collectifs correspondants. Et peut-être penser des situations qui soient adaptées à chaque lieu. S'il y a un lieu où l'apport, l'intérêt d'une municipalité, par exemple, est très fort, évidemment, il faut que dans cette municipalité, il y ait quelqu'un qui soit en charge, qui suive le projet, qui soit associé à toutes les décisions qu'il prend. Bon, ça c'est première chose, repenser les rôles avec à chaque fois ce qui est essentiel dans le rôle. Penser des outils adaptables et appropriables. On a beaucoup de progrès à faire. Du carnet de bord, journal de bord, pensée numérique. Et je pense qu'il faudrait envisager différentes modalités. Il y a d'abord penser une variété de traces. Ben, les traces d'une expérience, d'une mémoire, elles sont écrites, audio, vidéo, individuelles, collectives, collaboratives. Bon, qu'est-ce qui est le mieux pour ce qu'on veut faire? Il y a une variété de formes aussi. Il n'y a pas que le journal de bord. Là, je m'appuie sur les travaux de deux étudiants qui ont fait une thèse avec moi, qui ont travaillé sur le travail, quels sont les outils du travail collectif. Et Rima Mahmoud soutient sa thèse le 16 novembre dans cette même salle. Et ils ont mis en place une très grande variété de choses, journal d'interaction, journal aussi de moments importants. Hussein Sabra a travaillé sur ce qui est identifié par les acteurs comme des incidents dans le projet qu'ils mettent en place. Et donc, plusieurs acteurs sont en charge de consigner uniquement les incidents en essayant de voir d'où ils viennent et qu'est-ce que la communauté, qu'est-ce que le groupe met en œuvre pour faire face à l'incident. Bon, et puis, il y a des modes de partage. Il y a les outils qui sont pour soi, les outils qui sont pour le lieu, les outils qui sont pour le réseau. Ce n'est pas les mêmes outils. Bon, là, c'était une représentation graphique des interactions à l'intérieur d'un lieu apprenant sur lequel ces étudiants ont travaillé. Et puis, il y a une variété d'usages, prévus ou imprévus. Fabienne évoquait la réflexivité nécessaire, faire mémoire pour un lieu, la communication interne-externe. Des fois, ce qu'on demande, c'est une base de pré-interprétation de données. On ramasse des données parce que ça va servir à traiter le projet de recherche qui est en cours. Des dimensions de contrôle aussi, voir si le projet avance bien. Bon, vous voyez, tout ça, c'est des usages différents. Donc il y a des usages différents, il y a des formes différentes, il y a des modes différents, des supports différents. Et puis c'est tout ça qu'il faut arriver à penser pour avoir des outils. Et puis que chaque IA, finalement, trouve dans son génie propre des outils qui iront parfaitement pour lui, qui iront peut-être dans un deuxième temps très bien pour les autres aussi. Et bon, je pensais que pour voir comment ça marchait, on devait penser à la complémentarité et effet induit. C'est une bonne façon de voir comment ça marchait, les traces et les outils. Parce qu'il y a l'équipe du Léa, bon, chercheur et enseignant associé. Puis autour, il y a des choses. Il y a le lieu lui-même. Et puis, il y a l'équipe de recherche elle-même. Alors, on peut se demander, eh bien, je prends le, je ne sais pas, quel Léa, le Cabrières ou Parc Chabrières, pardon. Bon, il y a un Léa. Ben, je regarde le site du lycée. Je dis, tiens, est-ce qu'il y a des traces du Léa? Il n'y en a pas. Je crois, jusqu'à présent. Bon, comment ça se fait? Donc, pensez, peut-être qu'il y a une partie du journal de bord que c'est très bien de faire sur le site de l'établissement. Et pareil, je prends le site des équipes de l'IFE qui sont impliquées dans les Léa. Je prends le site du CREAD pour le désigner formellement, ICAR, etc. Je vais sur le site. Est-ce que je vais trouver trace des Léa? Bon, allez-y et vous aurez la réponse à la question. Et puis, je regarde encore autour. Et vous voyez, c'est un effet soit de cailloux qu'on jette dans l'eau et de ronds dans l'eau, soit alors on peut penser, là, si on est optimiste, d'ailes de papillon, puis après ça va, c'est un battement d'ailes de papillon, puis les institutions vont exploser à l'autre bout. Je regarde les institutions référentes. Qu'est-ce qui existe sur le site du rectorat de Lyon? Qu'est-ce qui existe sur le site des Cardis, sur les Léa? Qu'est-ce qui existe sur le site du département, sur les Léa? Et puis à l'autre bout, je prends aussi sur le site de l'IFE, sur le site de l'UNS, sur le site des universités partenaires. Parce que les UMR ou les équipes d'accueil, elles sont entre l'IFE et une équipe. Si je vais, je ne sais pas, sur le site de l'Université Lyon 2, est-ce qu'on parle des Léa? Donc c'est ça qu'il faut penser quand on pense à outils. Il faut penser à des choses, à utiliser déjà des choses qui existent pour ne pas refaire deux fois la même chose. Donc ça, c'est les effets, la complémentarité, puis les effets induits. Une bonne façon de voir si le Léa marche, bon, c'est de voir ce qu'il produit comme recherche ressource, mais de voir aussi ce qu'il diffuse dans les lieux de diffusion naturelle qu'il a autour de lui. Bon, puis après, on peut continuer, vous voyez, comme des choses fractales. Alors, je termine, pour être dans les temps, sur encore 5 minutes, sur les responsabilités partagées. Là, j'ai fait des propositions, puis quand même, chaque institution doit se demander qu'est-ce que moi, je peux faire. Alors, il y a d'abord l'équipe de pilotage, l'IFE, les institutions d'appui. Alors, les coordinateurs, ben, leur responsabilité, c'est de faciliter. Ça, c'est sûr, et de prendre à leur charge pas mal de choses. Il y a un appui technique, pratique, méthodologique. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de moyens. Je me tourne vers Michel Musseau, vers Fabienne. Bon, si on pense que les Léa sont des outils essentiels, à penser qu'ils vont fonctionner avec 2 personnes à moitié, qui sont chacun sur d'autres choses, bon, il faut voir, envisager la structure, voir à moyen terme quels sont les développements envisageable, dire voilà, pour faire ça, on a besoin de ces moyens et on les met. Et puis après, on se cale sur ces moyens, parce que ce n'est pas une bonne politique de faire plus que ce qu'on a les moyens de faire. Et je pense que jusqu'à présent, on fait un peu plus, parce qu'on est dans des phases instables de développement. Maintenant, on refonde l'école, on refonde la République, on refonde l'IFE, on refonde tout, mais à partir des moyens qui sont donnés, on avance de façon professionnelle pour faire ça. Bon, il faut certainement penser des regroupements de Léa. Et puis, essayer vraiment de penser bottom-up, hein, c'est-à-dire faire du générique avec du singulier, mais qui est vraiment déjà du singulier. On va extraire des outils, des pratiques mutualisables, mais il faut vraiment que les outils ne soient pas un lien qui dit « tiens, j'ai fait ça ». Non, il faut qu'il l'a fait, ça marche bien, il voit les conditions d'applicabilité, et puis, bon, on voit comment ça peut être mutualisé. Donc, vraiment, penser ça. Peut-être qu'on ne l'a pas assez pensé sous cette forme. Il y a une responsabilité, Catherine. Et des départements de l'IFE. Il y a différents départements dans l'IFE, recherche, formation, agence qualité éducation, médiation des savoirs. Pour moi, les Léa, c'est un outil de transversalité dans l'IFE. Il y en a d'autres, pas beaucoup. Il y a la chaire UNESCO, par exemple, qui a démarré maintenant. Les Léa, c'en est un. Donc pour le moment, c'est le département recherche. Bon, c'est normal, il me semble que la recherche soit un rôle d'aiguillon, mais c'est le bien commun. Et ça suppose l'engagement de toutes les équipes de l'IFE. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés. Si vous voulez, pour moi, je vois les LEA comme espace de formation généralisée, comme une sorte de réduction fractale des fonctions de recherche, formation et ressources de l'IFE. Si ça marche bien dans l'IFE, ça va marcher dans les LEA, et réciproquement. Alors je vais mettre quelque chose qui va plaire à Gilles Aldon, c'est-à-dire la fougère de Barnsley, un fractal vivant. Vous voyez, on voit, tout le monde sait ce qu'est un fractal, on voit l'ensemble, et puis on prend un petit bout, c'est pareil, on prend un petit bout, c'est pareil. Bon. Les LEA, ça doit être dans ce lieu de construction de la recherche fondamentale, ça doit être en petit ce qu'est l'IFE en grand. Et ça doit être aussi un moyen de transformer l'IFE, de mettre beaucoup plus de transversalité dans l'IFE que ce qu'il y a jusqu'à présent. Bon, ensuite, le rôle des partenaires institutionnels. Bah, je pense que là, il faut vraiment aller vers des cartes interactives. Par exemple, je vais mettre plusieurs cartes en parallèle. Il y a les sites académiques qui sont dédiés à l'expérimentation, à l'innovation. On devrait être capable aujourd'hui, au niveau, bon, essentiellement au niveau national, mais aussi au niveau local, de dire, voilà, les expérimentations, alors, elles sont très diverses, encore plus diverses pour le DRDIE que nous, pour nous dans les LEA, mais voilà les expérimentations que l'on fait, voilà celles que l'on fait. Est-ce que, bah tiens, est-ce qu'on pourrait en prévoir, dire, mais il y en a 10 qui vont être communes, par exemple. Bon, ça, c'est pas fait. Il faut qu'on arrive à le faire. On a commencé un peu à le penser à Lyon. Je crois qu'il faut le penser nationalement, sur les thématiques prioritaires, par exemple. Et donc, on fait des LEA communs et on met des moyens en commun là-dessus pour qu'ils aient encore plus de force pour se développer. Il y a la carte des futurs SP aussi. Donc là aussi, Patrick en a parlé tout à l'heure, je pense qu'il ne s'agit pas de faire des écoles d'application, parce que c'est le contraire de l'application. Il s'agit de faire des écoles de création, de co-création. Mais ça devrait être des outils essentiels aussi, associés aux recherches développées par les SP. Et puis, alors, il n'existe pas à l'heure actuelle de cartographie des recherches en éducation. Donc j'ai mis une cartographie des pôles de recherche et d'enseignement supérieur, parce qu'on doit présenter aussi ça, les LEA, ce n'est pas une affaire du ministère de l'Éducation nationale, pas même d'autres ministères, c'est une affaire générale. Et sur le plan recherche, c'est avant tout l'affaire du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, ça ne va pas être présenté uniquement à la DGESCO, mais aussi au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On doit dire, voilà, c'est ça les laboratoires où la recherche en éducation va se ressourcer. Et puis derrière ces trois cartes, il y a la carte des territoires eux-mêmes. Bon, Michel en a parlé, c'est les relations avec les territoires. Bon, il y a l'observatoire qui est en gestation que Daniel Frangy porte. Et puis, c'est à tous les niveaux. À Lyon, on a un rôle peut-être moteur, puisque l'IFE est à Lyon. Donc il y a peut-être des relations plus faciles avec Lyon pour que, là aussi, les LEA soient des laboratoires où les municipalités puisent leurs ressources intellectuelles en matière d'éducation. Bon, ça, je pense qu'il y a du boulot à faire, parce que la réaction naturelle de tous les partenaires, c'est « Ah ben voilà, ça c'est bien, on va pouvoir tester, expérimenter, et arriver à comprendre que c'est pas tout à fait ça. » Mais c'est quelque chose qui va donner... Alors ça peut-être ça fait écho à ce que disait Fabienne tout à l'heure avec sa belle citation, hein, c'est « Travailler sur la compréhension profonde ». Alors on ne peut pas dire « Excusez-nous, on travaille sur la compréhension profonde et dans 10 ans, on vous dira quelque chose ». Ça va en même temps. Mais il faut d'abord avoir en vue que c'est des questions d'intelligibilité qu'on travaille dans ces lieux. Bon, et puis il y a la plateforme recherche de l'IFE, c'est une dizaine d'équipes, plus un certain nombre d'autres. Et je pense que cette plateforme est responsable, donc la recherche proprement dite, du développement d'un environnement scientifique favorable pour les LEA. C'est-à-dire il y a tout un développement théorique qui doit s'alimenter aux LEA et alimenter les LEA en retour. C'est le comité scientifique, mais bien plus, c'est les équipes. Et on devrait voir dans les rapports de recherche des équipes, dans les rapports qu'ils font pour le contrat quadriennal, quinquennal, un chapitre, des éléments du LEA. Voilà ce qu'on a fait dans les LEA. Engagement commun, reconnaissance partagée de l'intérêt des LEA. Donc ce n'est pas quelque chose dans lequel on vient parce que c'est la mode à l'IFE, c'est quelque chose qu'on vient parce que c'est une reconnaissance partagée de l'intérêt scientifique. Bon, ça veut dire, je pense, des stages de formation qu'il faut arriver à penser avec les différents départements. Il y a déjà des stages master. Dans le budget des LEA, on a prévu un budget pour deux stages avec l'idée qu'il peut y avoir un stage proposé pour le master architecture d'information, qui est un master de pointe développé par l'IFE, où il s'agit, c'est l'architecture d'information, c'est comment donner beaucoup d'informations à beaucoup de gens. Mais c'est un beau stage pour un étudiant. Il y a un parcours éducation dans ce master, c'est comment arriver à faire circuler l'information dans les LEA, tenant compte à la fois de la singularité et de la volonté de mutualisation. Et puis un master plutôt éducation, donc ça peut être des bourses master, avec un sujet qui est discuté dans le comité scientifique, et puis une proposition qui est faite aux différentes équipes de recherche, qui ont toutes des masters, qui pourront proposer une candidature d'un master sur les sujets proposés. On voudrait aussi faire un appel d'offres recherche, donc qui donne des moyens spécifiques, pas pour développer la recherche qui est en cours dans un LEA, mais pour regarder cette recherche avec une préoccupation de qu'est-ce qui pourrait être mutualisable. Donc ça, c'est les moyens qui seraient donnés par la plateforme recherche pour concourir à faire ce développement intellectuel. Et puis, le séminaire international éducation et sciences de l'apprendre, c'est pas... on avait fait des présentations, je ne sais plus à qui, et puis il y avait l'idée que, ah bon, on a compris, l'IFE fait d'un côté, mais les mains dans le cambouis, c'est les LEA, et l'autre côté, à des visions stratosphériques, c'est le séminaire sciences de l'apprendre. Pas du tout. C'est exactement la même chose. Il me semble que dans le réseau des LEA, le séminaire des 8 et 9 novembre, il y en a deux dans l'année prochain, qui doit travailler sur les démarches d'investigation, leur évaluation, et avec une réflexion autour de Pierre Dillembourg sur c'est quoi orchestrer une situation de classe, c'est quoi orchestrer un ensemble d'acteurs, un ensemble d'outils et un projet pédagogique, c'est exactement la problématique des LEA. Donc, c'est deux aspects, deux points de vue sur un même travail. Et ce séminaire international, éducation et sciences d'apprendre, est très important aussi pour montrer aussi à nos interlocuteurs institutionnels que cette compréhension profonde des choses éducatives, ça ne se fait pas en laboratoire. Et que donc ces approches interdisciplinaires, ou les sciences cognitives, ou la didactique, ou l'histoire, ou l'épistémologie, ou les sciences du langage, vont concourir pour comprendre, appréhender cette complexité. Voilà. Alors, bon... j'ai fini, j'ai pris les quatre pages en utilisant avec l'application Wordle pour voir les mots qui ressortaient. C'est une facilité, bien sûr, c'est une histoire à suivre. Alors, en écoutant Michel, je disais, est-ce qu'il y a le rôle des métaphores, là, on parle que c'est les LEA soient catalyseurs, etc. Il y a un mot qui était, que je crois que c'est Gérard qui l'avait utilisé l'année dernière, je vais ressensibiliser, il parlait d'accélérateur de particules. Ben, il me semble que s'il y avait une bonne métaphore scientifique à prendre, ça serait ça, les LEA. C'est-à-dire un lieu où on met des éléments très complémentaires, et on fait, à la fois on dévoile des phénomènes existants, et on fait apparaître d'autres phénomènes aussi, ou des phénomènes qui existaient et qu'on ne voyait pas avant. C'est exactement un accélérateur de particules. Et c'est pour ça que c'est, on pourrait dire que les LEA, pour moi, ce sont les grands instruments de la recherche en éducation. Ce n'est pas un truc où on va dire, bon écoutez, on vous donne 50 HSE et deux demi-services. Non, c'est un grand instrument de la recherche en éducation. Et donc, soit les ministères, les collectivités, etc., le reconnaissent, et on va pouvoir faire des choses essentielles, soit alors ça reste un peu du domaine du bricolage, et bon, il y a toujours, Régis Debray parle des aspects absolument merveilleux du bricolage qui font naître de nouveaux instruments. Bon, dans des circonstances particulières, arrivent des éléments exceptionnels. Mais enfin, si on veut vraiment donner à la recherche en éducation les moyens de son développement, c'est bien une conception de grands instruments qu'il faut avoir sur les LEA. Voilà. Merci.